Paysage. Un tour au musée de la Chalosse. Installé dans un écrin de verdure sur le site du domaine de Carcher à Montfort-en-Chalosse, le musée de la Chalosse vous fait découvrir l'autre visage des Landes, celui plus vallonné, plus fertile que les Landes de Pin au nord de la Dour. Un pays qui, pour certains, est le véritable jardin secret des Landes, la Chalosse. Marqué par un paysage spécifique et une histoire singulière, la Chalosse se raconte à travers son musée, mais se découvre aussi au fil de ses territoires. Dans cette émission, tous les mois, nous reviendrons sur les recherches actuellement en cours autour du thème de l'exposition 2020 du musée de la Chalosse, des bars et des histoires. Avec la complicité du collectif artistique du Demi-Tour de France, des membres du comité scientifique de l'exposition et de l'équipe du musée, on évoque ensemble la Chalosse d'hier et d'aujourd'hui. Métonymie, terme désignant aussi bien le contenant que le contenu. Exemple, un café. Mais ça vient d'où, le café? Et depuis quand on en boit des cafés au café? Vous me suivez? Aujourd'hui, on se concentre sur les boissons consommées dans les cafés et on commence par les boissons chaudes. Des détours, un demi-tour en Chalosse.
Il est parti parce qu'il n'aimait pas son mari.
Non, c'est le chien.
C'est le chien.
C'est le chien, c'est le
chien. C'est bambou, il est un peu...
Ah oui, c'est ça, c'est bambou.
Le chien bambou, il est...
Oui. C'est le chien.
C'est terrible. Je comprends qu'il y en a quelqu'un, mais c'est pas vrai.
Alors c'est pour ça que ça ne passe pas.
Il y a la chasse dans certains restaurants,
mais il
laisserait pas.
Ah ouais.
Il n'y a pas là, hein, toujours. Il y a certains. Non, il y en a quelqu'un qui le laisserait hors, hein, mais on est obligé d'apporter un menteur.
Non, il est, pas, il est particulier aussi, lui.
Ouais.
Moi, je dis rien parce que. Mais c'est vrai que par moment. Vous voulez des glaçons là-dedans?
Ah oui, je veux bien un glaçon.
Ah oui, un petit glaçon.
Allez, allez, allez-y.
Elles sont beaux ces glaçons.
Eh oui.
Ah, merci. Voilà. Merci Marcel. Tchin tchin.
Vous buvez quoi vous? Du thé au café?
Non,
vous buvez pas. Non, du café.
Vous étiez au café?
Non, c'est le monsieur qui a pris le café.
D'accord. Okay. Vous voulez boire quelque chose, Marcel?
Pas oh, moi, bon, merci.
Non. Monsieur, non.
Oh là, c'est joli. Ils ont allumé.
Mais oui, je ne sais pas ce qui se passe là-bas ce soir.
Il y a
quelque chose.
Là, vous avez pas l'attention,
c'est bien.
J'arrive tout à l'heure,
il fait pas chaud.
Non, attention.
En fait, c'est surtout l'humidité.
Oui. Mais là, il y a la tempête, s'il va pleuvoir,
oui.
Je pense,
à
un moment.
Oui. C'est pas lancé, demain, je sais pas. Je sais pas, si. On peut
espionner. Oui.
Il y a un spectacle ce soir.
Je crois que c'est un spectacle d'improvisation où il y a des gens qui donnent la réplique sans savoir ce qu'ils vont donner comme réplique.
Du théâtre ?
De théâtre. Oui, un genre de théâtre. Oui.
Ouais. Oui. Donc c'est ça. Ce qu'ils ont dit dans les journaux.
On a vu une belle photo de vous, mais on l'a pas, parce qu'on était dans un club photo jeudi soir, et ils nous ont montré une belle photo de vous. C'est une photo en noir et blanc, vous êtes avec tous les joueurs de l'équipe.
Ah oui, basket.
Ouais, de basket.
Ah oui.
Elle est belle. Ils sont beaux les joueurs.
Oui.
Alors on s'est dit peut-être qu'on viendra vous voir avec le club photo.
Hein?
Ouais.
Alors, ça vous dérange si on vient qu'une dizaine de personnes
comme non. Enfin,
non,
non, non, non.
On va organiser ça, du coup peut-être qu'on viendra,
ouais.
On viendra ici.
Bonjour Françoise d'Artigue-Pérou, vous êtes présidente de l'association des Amis du Musée de la Chalosse, professeure d'histoire et membre du comité scientifique de l'exposition.
Alors bonjour Marie, madame la directrice du Musée de la Chalosse, je vous remercie de m'avoir invitée.
Le coin des historiens. Alors Françoise, le café, depuis quand en boit-on et d'où vient-il ?
Alors le café, si vous voulez, c'est venu du port de Moka qui avait l'exclusivité de l'exportation de café. Il venait d'Éthiopie et d'Arabie par les Turcs et les marchands italiens. Alors ils en font le commerce et on signale que vers 1644, il est arrivé à Marseille, mais dans une maison privée, hein, c'était quelqu'un qui avait des liens avec les Turcs. On le voit arriver en 1669 à peu près à la cour de Versailles et à Paris, on va le déguster dans ce fameux café qui s'appelle le café Procope. Alors on sait que vers 1723, on a environ 320 cafés à Paris. C'est dit dans le dictionnaire du commerce, bon, c'est pour dire à quel point ça s'est développé en quelques pas tout à fait 100 ans.
Et alors comment on le consomme le café ?
Alors on l'a consommé exactement comme on le consommait dans les pays arabes, c'est-à-dire c'était dans des maisons de café, le café ça se dit kawa en arabe, et dans ces pays musulmans, on allait au café parce qu'on ne pouvait pas boire d'alcool. Alors ici, traiter toutes les affaires qui se passent maintenant. Et il y avait, on l'a exporté aussi, toute une façon de boire le café. C'est-à-dire qu'on avait tout un rituel avec une cafetière qui s'appelle Librique. Et puis on avait ce que nous, on a appelé par la suite des tasses à café, mais c'est des fingants ou fingents qui sont droits. Et au départ, il n'y a pas d'anse hein, chez nous. Okay. Et c'est servi, quand on le peut, avec des petites serviettes en mousseline brodées d'or.
Et alors, pourquoi ce succès ?
Alors, le problème des boissons, c'est qu'il faut toujours leur trouver une justification. Alors, pour le café, on a trouvé comme justification qu'il réveillait, il agitait l'esprit, il donnait des idées. Bon, on était éveillé la nuit, on était stimulé. Et c'est pour ça que le café, c'était le café des philosophes. Alors, ça a été consommé bon, par les philosophes, certes, notamment au café Procope, mais aussi par tout ce qui est les gens érudits. Et puis, la haute société s'est embarquée là-dedans. Et c'était d'abord une boisson qui était réservée à la ville. D'abord, c'est coûteux et très peu à la campagne.
Et alors, justement, en Chalosse, l'arrivée du café, ça s'est passé quand et comment ?
Alors, les grands propriétaires ont voulu imiter les Parisiens, comme on fait souvent. Et c'est resté donc un élément de luxe. Avoir du café, servir du café dans des moments exceptionnels, c'était aussi manifester son appartenance à une classe supérieure. Mais on en avait aussi dans les campagnes, parce que par exemple, en Haute-Saône, il y avait une coutume, au moment des baptêmes, on offrait une tasse de café à la marraine, aux parrains et aussi aux parents. C'était une façon de sceller une union particulière. Alors après, on en a, si vous voulez, trouvé les limonadiers qui vendaient les boissons, en ont vendu dans les foires. Et peu à peu, c'est devenu, si vous voulez, un peu plus populaire. On en a eu connaissance, mais il faut attendre vraiment la fin du 19e siècle pour que cette cafetière, comme celle que nous allons avoir au musée, là, qui est posée sur la cuisinière toute la journée avec un robinet qu'on ouvre pour se servir, va atteindre à ce moment-là les maisons. Et encore, ce n'est pas du vrai café, parce que depuis le blocus continental, eh bien, on a pris l'habitude d'avoir de la chicorée qu'on mettait dans le café en plus ou moins grande quantité.
Ah oui, la chicorée. Et le thé alors ?
Alors le thé, ça c'est autre chose. Le thé, il est venu de Chine, du Japon, et d'abord il était importé sous forme de thé vert. Et au XVIIe siècle, c'est la compagnie des Indes néerlandaises qui va les transporter. On va les retrouver d'ailleurs, les Hollandais, plus tard. Il arrive en France en 1640. On va lui trouver des qualités médicinales. Alors, il paraîtrait qu'il désenivrait. Ça n'est pas prouvé.
Ah, c'est pratique.
Et alors, le cardinal Mazarin et Madame de Sévigné en font grand usage. Bien sûr, Madame de Sévigné le conseille à sa fille en lui disant de ne pas trop en boire. Mais il n'a pas pris en France, il a pris en Italie. Et quand on regarde les inventaires après décès, on va trouver plus tard des chocolatières, des cafetières, on trouve rarement des théières. Alors, juste à la fin du 18e, dans les familles bordelaises, au départ, on n'en trouve pas, mais vers la fin du 18e, apparaissent dans les inventaires après décès des familles riches, enfin posées. Là, sur 10 familles, on trouve 9 attestations de présence de théière. Donc, c'est vraiment réservé un milieu social et ça ne s'est pas démocratisé. Puis ensuite, il faut dire qu'il est vendu, comme toujours maintenant d'ailleurs, beaucoup plus cher que le café.
Oui, c'est vraiment le contraire de ce qui se passe en Angleterre, où là par contre tout le monde boit du café.
Tout le monde boit du café.
Du thé, pardon.
Du thé tout au long de la journée, tout au long de la journée. Mais chez nous, non, c'était très, très spécifique, c'était réservé à 17h à peu près.
Et alors enfin, parmi les boissons chaudes emblématiques des bistrots, il y a aussi le chocolat chaud, hein, ces deux circonstances. Oui. C'est devenu très familier aujourd'hui, mais c'était vraiment très très exotique comme boisson au départ.
Alors au départ, c'était une boisson tout à fait inconnue, hein, que l'on a. On connaissait même les fèves qui servaient de monnaie en Amérique. Mais en 585, est parti de Veracruz au Mexique un bateau sur lequel il y avait du café. Alors
du cacao.
Et donc ce qui se passe, c'est que les Espagnols vont le consommer. Et comment ça arrive en France ? Ça arrive en France par les reines, parce que Anne d'Autriche, qui se marie avec Louis XIII en 1615, elle apporte le café et même une servante qui était chargée de faire le café.
Puis le chocolat,
décidément, je ne m'y fais pas, ça doit être l'heure. Ensuite, le chocolat, il va venir aussi avec Marie-Thérèse, l'épouse de Louis XIV. Et alors là, elle est très friande de la boisson, au point qu'elle se cachait pour en boire à plusieurs reprises dans la journée. Et ça va être vendu au bout d'un moment, ça va être un produit exceptionnel et sa consommation est tout à fait rare. Elle n'atteint pas tout de suite les cafés de la ville.
Et oui, et alors donc on le consomme vraiment de manière très particulière qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui, quoi.
Oui, d'abord il fallait savoir qu'on le consomme chaud, alors que dans les pays d'où il est issu, il était consommé froid, il était mélangé à du piment par exemple. Et là, nous en Europe, on va l'agrémenter avec de la vanille, avec des coups de girofle, de la cannelle, et tout à fait, c'est pas du tout comme le faisaient les Aztèques, par exemple. Mm-hmm. Alors lui aussi, on va lui trouver des vertus thérapeutiques. Alors on va même lui supposer des vertus aphrodisiaques. Et c'est à ce moment-là qu'on va l'avoir dans les cafés des grandes villes. Alors il est consommé toujours pareil dans ce café comme le café Procoque, et c'est à nouveau, c'est toujours encore un produit de luxe qui est réservé à une certaine clientèle.
Et alors justement, comment se fait sa démocratisation vers les campagnes, on va dire, et notamment en Chalosse ? Est-ce qu'on a une idée ?
Alors en Chalosse, je ne sais pas quand il est arrivé dans les bars, dans les cafés ou dans les estaminets, mais il y a certainement quelque chose qu'on peut supposer, on peut remplir des pointillés, c'est que c'est à Bayonne que sont arrivés les juifs marins, qui venaient d'Espagne et qui sont installés du côté de ce qu'on appelle le quartier Saint-Esprit, du bourg Saint-Esprit, au XVIIe siècle. Et ils avaient apporté la technique. Ils avaient apporté la technique et le matériel, puisque la fève, elle est grillée, puis ensuite elle est écrasée pour faire de la pâte dans un espèce de récipient creusé ovale qu'on doit voir d'ailleurs au musée à Bayonne. Et on faisait ça. C'était quand même un travail qui était lourd, qui était... Bon, il faut de la force, hein. Mmh. Et c'est aussi à Bayonne qu'on a utilisé le procédé, la machine à vapeur, pour pouvoir travailler ça et en faire presque une production industrielle. Mmh. Alors, ce qui a dû pouvoir changer, c'est qu'à partir de 1828, Van Houten a mis au point un principe, si vous voulez, qui permettait d'avoir non plus le cacao sous forme de barre ou de pâte, mais de l'avoir en poudre. Alors, peut-être que là, c'est arrivé plus facilement en Chalosse.
Eh oui, le chocolat en poudre. Tout simplement du petit déjeuner. Merci beaucoup Françoise, c'était passionnant. On est donc passé du vin au café. Il est temps maintenant de s'intéresser aux alcools, car l'apparition des apéritifs a radicalement modifié les sociabilités qui se jouaient jusque-là dans les cafés. Mais ça, c'est pour une prochaine émission. Rendez-vous la prochaine fois.
Vous êtes bien dans l'émission Pays, paysans, paysages sur Radio MDM.
Écoute-moi l'ami, ainsi vont nos vies. Moi ton café tant qu'il est chaud, moi oh. Bois ton café, c'est moi qui l'ai fait. Bois ton café, olé. Bois ton café, c'est moi qui l'ai fait. Bois ton café, olé.
Bonjour Elena, alors quoi de neuf ?
Bonjour Marie. Des bars et des histoires, l'exposition 2020 du musée de la Chalosse, ce sont aussi des dates d'animation, de rencontres ou de soirées proposées hors les murs et organisées par les partenaires de l'exposition. Ces temps forts des lieux culturels se font sur tout le territoire de la communauté de communes Terre de Chalosse. Qu'avons-nous à l'annonce ? Prenez vos carnets de commandes et notez bien. Dès le 9 mars, le collectif Demi-Tour de France est de retour en Terre de Chalosse pour poursuivre sa résidence. Anouk Le Marquis et Marie Boutier se questionnent sur le thème des cafés ruraux. Au cœur de leur démarche artistique, un questionnement sur les mutations des territoires d'un point de vue sociologique et esthétique guide le projet photographique. Elles s'immergent complètement dans leur territoire d'études pour être au plus près du quotidien et toujours au contact des habitants. Pour les amateurs de photographie, deux possibilités de rencontrer le collectif Demi-Tour de France, le 25 mars et le 1er avril. Les places sont limitées. Pour les renseignements et les inscriptions, téléphonez au musée de la Chalosse au 05 58 98 69 27. La médiathèque de Mugron vous invite à un apéro lecture le 24 mars à 18h. Venez faire découvrir vos dernières lectures de romans, essais ou mangas au coin du comptoir. Ici, on discute sans a priori. Un café mémoire a lieu le 7 avril à la médiathèque de Hinks de 15h à 17h. Sur le thème des bistrots, un moment de rencontre à destination des anciens pour évoquer les traditions, les souvenirs de ce lieu de vie autour de lecture. Chacun peut amener un objet pour remettre dans l'ambiance et créer un espace de discussion avec la participation de Madame Labatte, chercheuse locale. Le café chercheur. C'est un échange croisé entre chercheurs locaux, scientifiques ou avec le public. Pour créer l'exposition des bars et des histoires, le musée de la Chalosse a fait appel à des érudits locaux pour enrichir de textes, images ou anecdotes un fonds documentaire déjà riche. Les chercheurs locaux vous ouvrent leur démarche au cours de Café Chercheur, le 23 avril à 17h au Guadada à Poyanne avec Madame Lamarck, Madame d'Artigue-Peyrou, historienne, et Marie Dourte, directrice du musée de la Chalosse. Le 29 avril à 17h au café communal de Doazit, Monsieur Dubedoute, Monsieur Trémont, anthropologue, et Marie Dourte, directrice du musée de la Chalosse, sont présents aux côtés de Madame Janine Laloubert, témoin privilégié de cette époque des cafés ruraux. À bientôt pour de nouvelles dates.
Merci du coup à Anouk et Marie de Demi-Tour de France, à Françoise d'Artigue-Peyrou, à Radio MDM, à vous Elena et à Dichat, et à bientôt en Chalosse. Pays
tour au musée de la Chalosse.